Je m'appelle Benoît Fédry, je suis fondateur de Horse Leader et spécialisé dans le management émotionnel. Deux mots qui pourraient paraître antinomiques, mais que tout pousse à rapprocher aujourd'hui. Chez Horse Leader, nous sommes persuadés d'être désormais dans un monde où l'émotion prend une place primordiale dans la réussite personnelle et professionnelle. Intelligence émotionnelle, sérénité, empathie, concentration, instant présent, des mots puissants, mais qui pourraient paraître mystérieux. Comment les mettre en pratique? Sont-ils des concepts innés ou acquis par l'expérience? Pour compléter notre activité de formation managériale par le biais du cheval, nous avons voulu croiser différents points de vue sur ces notions. Nous sommes allés à la rencontre de spécialistes dans chaque discipline équestre, avec en toile de fond le management et l'émotion. Cavalier, jockey, entraîneur, meneur, driver, sélectionneur, coach, propriétaire, pour connaître leur avis, leurs pratiques et leurs conseils pour performer de manière durable. Nous sommes allés à la rencontre de Maxime Livio. Depuis plusieurs années, Maxime est cavalier numéro 1 français de concours complet. En ce début d'année 2022, il est à la 14e place dans la FEI Ranking List. Il a un palmarès étoffé avec de nombreuses victoires nationales et internationales depuis qu'il a intégré le groupe France Senior en 2013. En 2019, Maxime est troisième au championnat du monde par équipe. En 2021, il vit sa première expérience olympique à Tokyo en qualité d'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de Thaïlande, poste qu'il occupe depuis 2013. Maxime est cavalier professionnel et entraîneur, mais aussi chef d'entreprise et manager. Il dirige l'écurie Livio depuis sa création en 2013.
Maxime, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et expliquer votre discipline pour les non-initiés?
Alors, je m'appelle Maxime Livio, je suis cavalier de concours complet d'équitation. Alors, c'est une des trois disciplines olympiques. Si je fais un petit parallèle avec des sports qui sont un peu plus connus, c'est comme du triathlon. Ça veut dire qu'avec le même cheval, on fait trois disciplines. Une discipline qui s'appelle le dressage, qui équivaut un peu à du patinage artistique. Ça veut dire qu'on a des mouvements imposés à faire et on est noté par des juges. Ça fait un premier classement. Et ensuite, on part sur le cross. Le cross, c'est vraiment un peu l'épreuve reine de mon sport. C'est un parcours en extérieur, dans les bois, à haut niveau. Ça fait autour de 6-7 km. Ça équivaut vraiment à un marathon pour les chevaux. Ça veut dire que c'est une épreuve d'endurance, de courage. On leur demande de sauter dans le vide, on leur demande de sauter dans l'eau, on leur demande de sauter des obstacles très étroits. Et nous, ce parcours-là, on l'a reconnu pendant des jours, mais les chevaux, ils le découvrent dans la seconde. Donc ça pourrait, si je fais un autre parallèle avec un autre sport, ça va être l'enduro à peu près. Et la troisième discipline qu'on fait toujours avec le même cheval, c'est le saut d'obstacle. C'est plus connu, c'est un parcours d'obstacles fragile avec des barres qui tombent. Et il y a évidemment une corrélation entre ces trois disciplines pour faire un classement général. C'est une discipline qui est géniale parce qu'on fait vivre et on vit, nous, beaucoup de choses avec les chevaux. Et on doit les entraîner sur beaucoup d'aspects différents, voire un peu contraires, entre un cheval qui doit se préparer au dressage, qui doit être gracieux, très élégant, très concentré. Et puis le lendemain, c'est un lion qui part à la guerre sur le cross, galoper dans la boue. Donc c'est vraiment des choses complètement différentes et c'est ça qui rend ce sport passionnant, c'est qu'on doit essayer d'amener un cheval avec ses défauts, ses qualités, à être bon partout et on l'entraîne pour ça. Et si je précise un peu ma présentation personnelle, on gère une écurie depuis une douzaine d'années, on est installé à côté de Saumur et c'est une écurie qui a trois activités principales, le sport de haut niveau, l'enseignement de haut niveau et le commerce. Pourquoi j'ai ces deux activités en parallèle du sport? C'est parce que, comme beaucoup de sports, c'est pas assez rémunérateur, donc il faut trouver des activités parallèles qui nous permettent de financer un petit peu tout ça. Et j'ai la chance d'avoir rencontré des super personnes qui m'ont aidé, des super chevaux qui m'ont permis d'atteindre déjà pas mal d'objectifs.
Oui, parce qu'au niveau sportif, on peut dire que vous performez. Quelles sont pour vous les conditions à réunir pour performer de manière durable?
Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que tous les élèves que j'ai ou les gens que j'encadre pour devenir professionnel, je leur dis toujours que cavalier de haut niveau, c'est autant de temps à cheval qu'à pied. Parce qu'il y a un aspect de gestion de carrière qui dépend pas de son talent intrinsèque. Je pense que c'est pareil dans tous les sports, mais c'est encore plus vrai dans l'équitation parce qu'on dépend d'un tiers, d'un animal pour performer. Et si on accepte ça et si on le prend complètement en compte, et ben on organise sa vie pour toujours trouver le partenaire d'après, potentiellement en trouver toujours un encore meilleur. Mais les chevaux, ça coûte de l'argent, il faut pouvoir les garder, il faut pouvoir avoir du temps avec eux, parce que si on est sous la pression d'un championnat qui arrive ou d'une banque ou de choses comme ça, ça devient vite on n'a plus le temps de tisser cette relation ou de laisser le temps au cheval de se former. Donc on est vraiment directement dépendant de la qualité des chevaux qu'on a et du luxe temporel qu'on a pour les rendre brillants. Donc 50% du temps pour faire ça avec les chevaux qu'on a et 50% du temps à pied pour préparer l'écosystème à recevoir de nouveaux chevaux, à en récupérer, à les garder, à vivre ça avec d'autres partenaires qui sont les propriétaires, les sponsors. Mais c'est vraiment moitié-moitié. Et si on est très très bon à cheval et pas très bon à pied, ben on va avoir une carrière en dents de scie parce que c'est très difficile de toujours avoir une bonne qualité de chevaux qui nous permet de rester au meilleur niveau.
Et alors, sur la notion de cavalier, elle se fait où la différence entre un très bon et un top cavalier?
Je dirais que quand on arrive à un certain niveau, le sens avec le cheval, il est assez équivalent pour tous les cavaliers. Après, ce qu'on en fait, c'est ce qui va faire basculer ce sens-là du côté exploit ou performance de très haut niveau. Pour moi, c'est le travail qu'on va mettre par-dessus au quotidien, et c'est ce qu'on va créer avec le cheval qui va nous rendre puissance 10. Moi, je connais des cavaliers qui me disent que c'est la perf, elle dépend à 90% d'eux et les 10% qui restent chez le cheval. Moi, je dis que c'est 50-50. Parce que j'aime bien éduquer mes chevaux à participer à la performance et ça dans les années de jeune cheval. Si on leur apprend ça, je trouve que quand on arrive à haut niveau, ils nous aident autant qu'on les aide. La performance, elle est vraiment mutualisée et je trouve que à niveau équivalent à de cavalier de cheval, si on a le cheval qui participe, il nous donnera toujours 110, 120% de ce qu'il est capable de faire. On va même pouvoir des fois surclasser des chevaux parce que mentalement ils sont généreux, parce qu'ils ont compris le principe et tout. Alors que si c'est le cavalier qui demande et le cheval qui exécute, je trouve qu'on en obtient toujours 90%. Donc je dirais que c'est la quantité de travail que le cavalier est capable de mettre, pas sur le même cheval, sur l'ensemble de sa carrière au quotidien. Et c'est réussir à convaincre le cheval au fur et à mesure des mois et des années qu'il prend du plaisir à le faire et ça demande du temps. Moi, on m'a toujours appris il faut convaincre les chevaux, pas les contraindre. Et ben, convaincre quelqu'un, c'est comme une personne. Hein. Ça demande de discuter, ça demande de prendre du temps, ça demande de comprendre l'autre, pour comprendre ses réticences et de voir comment on peut l'amener à nous. Alors que si on essaie juste de contraindre, bah, ça prend moins de temps, mais le résultat il est toujours plus décevant, je trouve.
Donc on peut parler de connexion au cheval. Elle est importante. Comment justement la développer, cette connexion?
Alors moi, dans le mot connexion, il y a deux choses qui me viennent. Il y a la connexion sportive, je dirais, ça veut dire le contact des jambes, de l'assiette, des rênes avec les mains, et du coup qui ont un contact avec le mors du cheval, donc sa bouche. Ça c'est la connexion physique, mais moi je travaille énormément là-dessus parce que je trouve qu'il y a, notamment avec le contact avec la bouche du cheval, il y a mille choses qui passent par là. Il y a évidemment la direction, le frein, ça parle à tout le monde, mais il y a aussi la confiance, la décontraction, Quand on a un contact constant, c'est comme au téléphone, quand on a un très bon réseau et qu'on peut se parler facilement. Quand on a un réseau brouillé, qu'on entend le partenaire au bout du fil comme en morse, c'est horrible. Et ben un contact qui se tend et qui se détend avec la bouche du cheval, pour lui c'est du morse quoi. C'est je suis là, je suis plus là. Donc il y a cette histoire de connexion physique qui pour moi est très importante parce qu'elle c'est la fluidité des messages qu'on veut se renvoyer l'un l'autre, donc elle est très importante. Et après il y a la connexion psychologique, si on peut appeler ça comme ça. Ça nécessite, pour moi, c'est exactement la même relation qu'on a avec les gens. En fait, moi, je personnifie vachement les chevaux. Essayer de comprendre leur personnalité, leur profil psychologique, de s'adapter à ça, de les connaître comme un copain. La place du cavalier, pour moi, elle est difficile à trouver parce qu'on doit à la fois être un prof, un kiné, un copain. Et ça veut dire que des fois, on doit avoir une certaine rigueur dans l'éducation, mais qu'à la fois, on doit être un psychologue pour les rassurer à d'autres moments. Faut pas se dire la connexion c'est juste copain, non, on est là pour s'éduquer, faire du sport, être meilleur. Donc je pense que le coach de Laurent Manaudou ou de sa sœur c'était pas leur copain quoi, c'était leur coach quoi, et puis on en a tous entendu parler, il était hyper exigeant mais ça les a rendus brillantissimes. Donc après nous avec un animal on peut pas être que dans l'exigence comme ça parce que sinon à un moment donné on passe dans la contrainte et plus dans le fait de les convaincre. Donc je dirais que moi c'est mon plus gros travail quand je cherche un cheval, je trouve que le potentiel intrinsèque, la qualité, la puissance, la beauté du cheval, tous les cavaliers sont capables de le voir aujourd'hui, ou tous les bons cavaliers, ou tous les cavaliers professionnels. Mais déceler en une demi-heure, trois quarts d'heure la personnalité du cheval, je trouve que c'est le plus important. Mais c'est comme un entretien d'embauche, quoi. Ça dure pas longtemps, on se voit et on sent la personne ou on la sent pas, quoi. Et des fois, il y a des gens moins compétents ou avec un CV moins important, mais qui ont la personnalité qu'on recherche. Et moi, je vais toujours préférer un cheval qui donne un potentiel moins important qu'un très gros potentiel avec un cheval qui donne pas beaucoup.
Derrière ce que vous évoquez sur la notion de psychologie, ça me renvoie à la notion d'intelligence émotionnelle. Alors c'est une notion dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Est-ce qu'elle elle évoque quelque chose pour vous? Est-ce que dans votre métier, vous l'utilisez ou elle...
Alors je ne vais pas dire que je l'utilise directement en ces termes, mais par contre on la vit tout le temps. Pour moi les chevaux c'est pas des animaux très intelligents, mais par contre c'est des chevaux qui ont très grosse sensibilité et une très grosse mémoire, la mémoire du positif, la mémoire du négatif. Et d'ailleurs on joue là-dessus pour les dresser. Quelque chose qui est pas bien, c'est pas confortable, et quelque chose qui est bien, c'est confortable. Et vu que c'est des animaux qui ont une bonne mémoire, qui sont sensibles à leur confort, ben ils recherchent le confort et ils reviennent de plus en plus vers les zones de confort. Donc c'est sûr que c'est ça qui rythme nos vies dans la manière de les convaincre. Et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, c'est que un cheval qui est contraint, il fait parce que on l'oblige à faire, il fait pas volontairement entre guillemets. Donc du coup, il fait crisper, il fait gêner, et l'inverse est du coup d'autant plus vrai. Ça veut dire que le cheval qui vient dans une zone de confort qu'on lui a fait trouver, c'est lui qui la recherche, et puis après c'est un cercle vertueux parce que plus on lui donne de confort, plus il a envie d'y retourner, et puis plus il s'exprime dans cette zone de confort. Et puis alors forcément au début pour la trouver il y a des incompréhensions, il y a des choses comme ça, mais donc l'intelligence émotionnelle des chevaux, elle est très forte et elle est très présente dans la manière de les éduquer. Moi, je fais très attention dans notre sport particulièrement, qui est assez exigeant au niveau physique pour les chevaux, que la mémoire de l'effort, elle vienne très progressivement pour que le jour où ils commencent à découvrir, à aller un peu dans le dur, parce que c'est un marathonien, il va dans le dur, mais on peut lui expliquer les choses. Et moi, j'ai l'impression avec mon métier qu'on explique aussi bien les choses aux chevaux quand on prend le temps de les préparer. La difficulté, c'est quand on veut aller trop vite ou qu'on veut les contraindre ou que, et ben là on leur explique pas et là ils sont surpris. En fonction du potentiel du cheval, moi, il y a des épreuves que je mets dans la couleur verte. Donc ça veut dire pas d'effort psychologique ou physique pour le cheval, puis il y a orange, puis il y a rouge. Le haut niveau, c'est dans le rouge, mais ça c'est normal, c'est vrai pour tout. Le seul truc, c'est qu'il faut les préparer. Donc à 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est les épreuves vraiment où ils démarrent la compétition. Ça doit être que du vert pour moi. Et ça veut dire qu'on va à la vitesse où le cheval est prêt, l'exigence où il est prêt, c'est que de la formation, on fait pas de la compétition. Alors bien sûr, c'est des compétitions, mais moi j'y participe pour préparer mon cheval à apprendre son métier de cheval de concours complet et l'amener à être convaincu de faire ce truc-là. Et 7-8 ans, on finit l'adolescence, on commence à avoir un corps et un mental un peu plus fabriqué. Et là, faut faire vert, vert, orange, on redescend. T'es monté une fois dans les tours, super, on redescend, vert, vert, orange. Et si on arrive à le faire 2 ou 3 fois dans l'année, c'est super. Et 9-10 ans, c'est la fin de l'apprentissage de durcir son corps. On appelle vraiment ça comme ça. Enfin, moi, c'est le mot durcir le corps, durcir le mental. Et là, on va faire vert, orange, rouge, vert, orange, rouge. Et si la deuxième fois, les chevaux ont été dans le rouge avec appétit, et sans se blesser et sans avoir trouvé ça difficile, ben là à ce moment-là on peut accéder au haut niveau et puis on va faire une épreuve de préparation qui est dans le orange et une épreuve de très haut niveau qui est dans le rouge, du repos, une épreuve de préparation, du rouge, et là les chevaux ils vivent très bien ça et même ils se conditionnent, ils se préparent. Dans mon sport, on a 6 épreuves dans le monde qui sont des épreuves de 5 étoiles. Si on fait un parallèle, c'est comme les grands chelems au tennis. C'est réparti dans le monde, c'est ce qui est le plus dur. Moi, j'ai emmené maintenant 7-8 chevaux participer à ces épreuves-là. Et c'est impressionnant de voir comment les chevaux, ils se transcendent dans les 2 mois. Ils se transforment physiquement, ils se transforment mentalement. Ils mangent pas de la même façon, ils sont concentrés tout le temps. Comme on voit un Teddy Riner qui d'un coup à 2 mois des jeux se transforme dans les interviews. Eux ils font la même chose. Et ça c'est parce qu'on a vraiment appris depuis l'âge de 4 ans que c'est cool. Hop, c'est un peu moins cool. Hop, t'as gagné, t'as été fort. T'as pas compris, c'est pas grave. On va redescendre, on va réexpliquer. Et à un moment donné, ça devient on y va, paf, ils font leur épreuve et après il y a le relâchement de. Et c'est assez génial quand on a fait un long parcours. Donc l'intelligence émotionnelle, moi je la mets là, c'est le cheval qui a compris son truc, qui a aimé le faire et qui participe vraiment, quoi.
Moi je mettrais également l'intelligence émotionnelle au niveau du cavalier, pour le coup, dans tout ce que vous venez d'expliquer, la capacité à être posé, apaisé, je dirais même. Mmh. Pour justement faire réussir le cheval, c'est-à-dire lui laisser prendre le temps nécessaire pour arriver à maturité et performer.
Le plus difficile, c'est quand, là j'ai décrit la progression idéale, mais des fois, la première fois qu'on voit dans le rouge, même si on a été performant, on sent que la confiance, elle est plus au même niveau parce que le cheval a forcé et pourtant, y a peut-être après cette perf-là, il y a peut-être une sélection potentielle pour un championnat ou quelque chose. Et c'est là où il faut avoir la maturité, le recul, de dire... Moi, je sens que j'ai tapé un petit peu dans le capital confiance. J'ai besoin de le remettre au même niveau avant d'y retourner. Donc, au lieu de refaire vert, orange, rouge rapidement, on va peut-être faire vert, vert, vert. Ah, ça y est, j'ai digéré mon épreuve rouge. Et là, hop, on y retourne. Et c'est vrai qu'il faut toujours, dans le débrief de la compétition, ne pas voir que le résultat, le score. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse dans le concours. C'est gagner pour être premier, deuxième. C'est pas ça que j'aime dans la compétition. Ce que j'aime, c'est essayer d'être le meilleur avec le cheval que j'ai à ce moment-là. Si le meilleur, c'est 15e avec ce cheval-là, ce jour-là, c'est comme une victoire. Et des fois, on a une super qualité de chevaux, et puis être le meilleur avec ce cheval-là, c'est gagner. Mais moi, ce que j'ai gagné, c'est juste avoir réussi à amener ce cheval à participer à la performance à hauteur de son talent, en essayant d'utiliser le mien au mieux possible, et puis ça nous donne un score qui nous place dans un ranking de compétition, mais c'est pas tellement par rapport aux autres que je fais ça, c'est plus, d'ailleurs, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est le chemin avec le cheval qui est intéressant pour arriver à faire ensemble une épreuve difficile. Mais pour moi, si on la fait pas ensemble, ça m'intéresse pas.
Pour la notion d'épreuve internationale ou autre d'ailleurs, mais la notion de régulation de son stress pour un cavalier, comment elle se travaille? Et puis derrière ça, c'est est-ce qu'un cavalier serein, apaisé, va apporter plus à son cheval qu'un autre? Est-ce qu'il y a un bon stress?
Alors, je pense que vous aurez des réponses différentes à cette question-là, parce qu'on est, on n'est pas forcément égaux, ça dépend aussi de nos personnalités. Moi, c'est assez facile, entre guillemets, mais c'est très personnel, mais... Moi, j'objective beaucoup les choses. Ça veut dire que même quand je suis dans une zone de maxi-pression de performance, j'ai justement établi tout ce chemin avec le cheval. J'ai un parcours à réaliser. Je me concentre sur les éléments techniques de chaque parcours. Je prends des infos de l'état de forme de mon cheval psychologique ou physique à la détente. Je les analyse pour répondre au mieux aux difficultés de mon parcours. Puis après, je réponds avec mon cheval à chaque question. Mon rôle, c'est de poser bien les questions. Son rôle, c'est d'y répondre. Et on fait ça ensemble. Et puis des fois, je passe le dernier obstacle. J'ai gagné une épreuve, mais je suis encore un peu dans l'analyse et dans la relation avec mon cheval pour avoir bien répondu à ce truc-là. Donc ça fait assez robotique quand je dis ça. Pour moi, ça l'est pas du tout, parce que c'est vraiment une discussion de tous les instants. Le fait de fonctionner comme ça, ça enlève le contexte, parce que sauter un obstacle, qu'on soit dans un stade olympique avec des milliers de téléspectateurs ou qu'on soit tout seul chez soi, la question, elle est la même. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte en tant que cavalier, c'est l'état psychologique ou physique du cheval. Parce que lui, il peut avoir du stress d'être dans ce moment-là. S'il a du stress, on doit adapter un petit peu son équitation. Mais c'est là où le contact, la connexion dont on parlait tout à l'heure avec la bouche, avec les jambes, avec... Moi, quand j'ai un cheval stressé, j'essaie de l'envelopper, comme quand on prend quelqu'un dans ses bras. T'inquiète pas, on va le faire ensemble, on a l'habitude. Et c'est là où, en fait, pour moi, le stress du cavalier... Moi, il est facile à gérer, parce que en fait, c'est le cheval qui m'aide à gérer mon stress, parce que je suis tellement concentré sur lui que je m'en oublie un petit peu. Qu'est-ce que je dois faire pour le rassurer? J'oublie ça. Et si je vous parle de ma compagne, Mathilde, elle est très extravertie dans ses émotions. Elle peut avoir un fou rire et pleurer en l'espace de 5 minutes. Et elle se sert de ses émotions pour... faire participer plus les chevaux à la performance. Elle a du stress qui monte quand elle rentre en piste, mais elle va le partager avec son cheval en disant « Allez, aide-moi, je t'aide, c'est le moment, on le fait ensemble. » Et puis du coup, cette tension, c'est pas du stress, mais cette tension à l'entrée en piste, ça rend le cheval un tout petit peu plus brillant, parce qu'il sent que la cavalière en qui il a confiance, elle est peut-être plus concentré que d'habitude ou plus tendu, lui il est et les sauts sont peut-être plus géniaux, parce que c'est pas du mauvais stress, c'est le stress du le trac du gars qui rentre en piste, c'est pas le gars qui a pas envie d'y aller, c'est le gars qui a envie d'être bon. Et du coup donc vous voyez que là, ces deux cavaliers, on a le même travail avec les chevaux, mais il y en a un qui se sert de ses émotions décuplées pour en faire une force, pour rendre le cheval plus brillant, et puis il y en a un qui s'oublie un peu pour essayer de gérer, de se concentrer que sur le cheval et de gérer les émotions du cheval. Donc c'est très différent, mais je pense qu'au final, l'important, c'est toujours que ça soit en relation avec les deux. Je pense que le stress, il devient négatif quand le cavalier s'occupe plus de son cheval, tout simplement.
Oui, le cheval étant le point central de la relation.
De tout dans nos vies.
Sur votre site internet, vous évoquez 5 termes, 5 mots qui représentent vos valeurs. Rigueur, performance, respect, bien-être et convivialité. Est-ce que, en deux mots à chaque fois, mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Si je commence par la notion de rigueur.
Alors la rigueur, je pense que c'est... moi j'ai l'habitude de dire qu'on est effectivement athlète de haut niveau, mais on est aussi chef d'entreprise, on est aussi paysan, on est aussi parent. Et ça, c'est quand même 4 volets de vie qui prennent toute l'énergie, tout le temps. On vit pour les animaux, et je trouve que pour réussir ces 4 parties de nos vies qui sont très prenantes et difficiles, il faut de la rigueur. C'est pas de la rigidité, hein. C'est de la rigueur, c'est toujours avoir ses objectifs en ligne de mire, savoir pourquoi on fait tel et tel sacrifice dans nos vies, pourquoi on bosse, pourquoi des fois c'est dur, pourquoi on a raté, pourquoi... Donc la rigueur, je la mets plus dans être bien organisé, garder toujours l'objectif en tête pour savoir pourquoi on a choisi cette vie-là qui est très difficile, où il y a plein de choses qui paraissent vite compliquées pour rien, quoi, en fait. Pourquoi on se met autant de contraintes? On se met autant de contraintes parce qu'on a une vie de passionné, qu'on vit avec nos chevaux, et garder la rigueur de l'objectif, la rigueur de l'organisation, ça aide à passer les caps les uns après les autres.
Merci. La notion de performance,
Ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure déjà. La performance, pour moi, c'est pas battre Pierre, Paul ou Jacques ou être numéro 1, ou c'est faire le mieux avec le cheval qu'on a à ce moment-là. Une 10e place, ça peut équivaloir à une victoire avec un cheval ou un autre. Et c'est vraiment la recherche d'une certaine idée qu'on a de l'équitation à l'écurie. On veut une équitation qui est belle en étant efficace et sportive, et on veut une équitation où le cheval participe. Faire une performance en sortant de l'équitation qu'on veut, on est à chaque fois un peu déçu. Avoir l'équitation qu'on veut sans performance, on est aussi un peu déçu. La performance, elle est quand on arrive à mettre tout ça en place. Des fois, on fait des super résultats sans être très content de la performance.
Le mot respect ?
Respect, je pense que ça fait des années que je le dis, mais pour moi, les stars aux écuries, ceux qu'on devrait interviewer, c'est les chevaux. Sans eux, on n'est rien, et il faut toujours l'avoir en tête. Je pense qu'il y a des fois des gens qui oublient que le meilleur cavalier du monde, si demain son écurie elle se vide, il devient quoi ? Il est plus rien, son camion elle lui sert à rien, sa carrière elle lui sert à rien, il faut des chevaux, et des fois on en a des très bons et des fois on en a des moins bons. Dans tous les cas, on doit être content du cheval qu'on a la chance de monter, respecter cette chance là mais je dirais que c'est le respect de manière générale, même quand je pense à l'éducation de mes deux tios qui sont pas grands et tout, c'est une des valeurs la plus importante que j'essaie de donner. Je trouve que le respect envers les gens, les choses, les chevaux, la planète, tout ça, c'est un moyen de bien guider nos choix, je trouve.
Et alors les deux derniers qui peuvent être peut-être liés, bien-être et convivialité.
J'ai le souci que mes équipes qui travaillent comme des brutes pour faire tourner notre système, nous aider à atteindre nos rêves, j'ai vraiment le souci qu'ils le fassent comme les chevaux. Ça veut dire que ça soit pas une contrainte et que ça soit, c'est du boulot, mais c'est un boulot qu'on a choisi et on le fait pour les chevaux, on le fait pour l'équipe. Donc on essaie vraiment d'être une grande famille. Maintenant il y a une douzaine, même plutôt 13-14 salariés à la maison, il y a autant d'élèves, donc on est une grosse famille. On essaie vraiment de cultiver ce truc-là, parce que si chacun est un petit maillon solide de la chaîne elle tourne bien, et puis s'il y en a un qui commence à plus être convaincu par les choses, ou plus être respecté, ou plus trouver sa place, ou ben là on effrite vite la rigueur, du coup la performance. Donc je trouve que c'est vraiment important, et c'est vrai qu'avec Mathilde c'est vraiment un souci pour nous de sentir que toute l'équipe est heureuse, connaît les objectifs. C'est pas nous qui décidons, on fait beaucoup de réunions, on essaie de se mettre autour d'une table, voilà, le mois prochain il y a tel objectif, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce cheval là en particulier pendant ce mois là je voudrais qu'il sorte plus, qu'il aille plus au paddock, qu'il fasse plus ci, je voudrais pas qu'il perde de poids, chacun, la groom elle a sa responsabilité, le cavalier il a la sienne, le maréchal il a la sienne, et puis tout ça fait des petites fourmis qui font que peut-être il y a un truc qui va se passer. Bien-être et convivialité, ça c'est pour les gens et pour les chevaux évidemment aussi. Récemment j'ai fait aménager des choses dans les écuries pour avoir différents modes de vie possibles au sein de la même écurie. Il y a le truc un peu classique qu'on a depuis des années, un box, mais toujours avec une vue extérieure, avec un contact avec les chevaux, parce que c'est des animaux grégaires, donc moi je veux qu'ils puissent se sentir, se toucher, et puis ils vont marcheur, ils vont paddock, ils vont à l'entraînement. Ça c'est vraiment la vie classique. Mais j'ai aussi fait ce qu'on appelle des terrasses, un paddock directement collé au box pour que le cheval il puisse sortir, mais ça c'est un paddock en sable qui est pas d'une très grande taille, mais qui a grandi le box, et je m'aperçois là pendant les canicules qu'ils adorent aller se rouler, se gratter dans le sable, ça les rafraîchit, puis après ils reviennent à l'intérieur à l'ombre, et puis ils se gèrent très bien. Et puis j'ai fait un autre type de vie qui est un box ouvert sur un grand paddock, et les chevaux se gèrent complètement là-dedans. Et en fait, j'aime pas un système qui est imposé à tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, on sent la personnalité du cheval. Ben, y a celui qui est un peu exubérant, extraverti, et qui a besoin de un peu hyperactif. Ben, lui, il va aller dans le pré avec le box avec le pré, comme ça il peut gérer son énergie, son truc, faire sa vie, être un peu plus autonome. Puis au contraire, le petit gars un peu modeste dans sa confiance en lui et tout. On va plutôt le mettre près de nous et puis lui dire t'inquiète pas, on va être avec toi. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant dans le bien-être du cheval, c'est adapter le système ou les systèmes à sa personnalité pour le faire éclore à un moment donné, quoi.
Alors vous l'avez dit, vous êtes également manager. C'est quoi la définition du management selon Maxime Livio ?
C'est fédérer le bon état d'esprit dans un groupe pour réaliser un objectif.
Et est-ce qu'on peut faire des transpositions entre manager une équipe et manager des chevaux ?
Ah ouais, ouais. Complètement. Bah, d'autant plus à partir du moment où moi je dis que c'est... un cheval, si on le personnifie un petit peu, c'est vraiment c'est gérer la relation avec lui, c'est comme gérer la relation avec une personne. La seule différence qui est de taille, c'est que le cheval nous parle pas directement. Donc ça veut dire qu'on doit être deux fois plus attentif à ce qu'il nous montre. Alors que quand on se met autour d'une table avec un copain, un collègue, un patron, un salarié et tout, on peut se contenter que des mots qui sont envoyés, mais on peut aussi être attentif à comment il s'est assis sur sa chaise, comment il nous regarde, est-ce qu'il a les yeux qui brillent à un moment donné, est-ce qu'il se ferme, est-ce qu'il se fige, et en fait les chevaux ils nous donnent que ça, donc si on n'y est pas attentif, on communique pas avec eux. Et moi du coup je trouve que ça développe vachement de sens dans la relation aux gens, parce que le corps il parle beaucoup, les yeux ils parlent beaucoup, et d'ailleurs on le voit avec quand on parle pas la langue de quelqu'un et qu'on a quelque chose à faire, nous on le voit. Maintenant les Thaïlandais ils parlent tous anglais et tout, mais au début quand les premiers cours que je faisais avec certains Thaïs qui parlaient pas anglais, on pouvait pas se comprendre. La seule chose qu'on faisait c'était des sourires, des clins d'œil, moi je mimais les mouvements que devaient faire les chevaux et puis on se comprenait, et c'était qu'un langage corporel. Et en fait c'était assez facile à faire pour des cavaliers, parce que avec les chevaux c'est qu'un langage corporel, c'est un peu de présence, mais quand on parle à un cheval, il comprend pas le mot, par contre il comprend l'intention qu'on met dans le mot. À la longe, on pourrait dire un cheval de galoper avec n'importe quel mot, c'est la manière dont on va donner l'instruction, où il va se dire « Ah, il veut que je galope, ah, il veut que je trotte ». Donc ça, il y a 10 000 parallèles, je pense que ça parle à beaucoup de gens qui managent des équipes ou qui ont des relations précises avec des gens, ça c'est sûr.
Alors, de par votre expérience, si vous aviez un conseil à donner aux managers qui nous écoutent, ce serait lequel ?
Moi, je sais que le rôle que j'ai dans mon équipe, j'essaye d'être un exemple en permanence pour mes équipes ou pour mes élèves. Ça veut dire que avant de demander aux gens de faire des choses, il faut leur montrer. Je trouve que c'est important. Ça veut dire montrer la bonne attitude, ça veut dire montrer la bonne implication. Moi je sais que j'arrive pas à demander un certain niveau d'exigence ou de compétence aux gens si je me l'applique pas moi-même, ou si même je suis pas... Si je leur demande 100%, bah moi je dois montrer 200%. Ah bah il fait toujours plus, et je trouve que ça tire tout le monde vers le haut. Je dirais que c'est ça le rôle d'un... J'aime pas le mot leader, donc plutôt d'un manager, c'est de dire voilà, moi je suis là pour vous, vous êtes là pour le projet, on fait un groupe, 1 plus 1 égale 3, quoi. Il y a la personnalité de chacun, puis il y a la personnalité du groupe, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est surtout insuffler un état d'esprit, d'abord par l'exemple, et ensuite beaucoup communiquer. Je trouve que ça c'est le plus important, quoi. Beaucoup, beaucoup communiquer, que ça soit verbal ou... s'intéresser aux gens, voilà, quand il y a quelqu'un de son équipe qui a un nouveau petit copain ou une nouvelle petite copine, ça va forcément changer ses priorités dans sa vie. Ben, si on n'en prend pas conscience, ça veut pas dire qu'on s'implique dans sa vie du tout, mais si on en a conscience, on peut l'aider à trouver un nouvel équilibre pour qu'il garde 100% de son investissement et qu'il sente une certaine considération de son entreprise ou de son manager, et du coup ça va faire qu'à aucun moment cette nouvelle priorité dans sa vie va influer sur son travail, au contraire même. Parce que du coup, vu qu'on le considère que ça fait partie de sa vie, et tiens, bah, ce soir, on a tous fini, tu peux partir plus tôt, on va finir la journée pour toi, le lendemain, il arrive avec trois fois plus de motivation, et puis en se disant qu'il est super considéré dans cette entreprise, dans ce groupe, et voilà, c'est ces petites choses-là qui font que le groupe, il se bonifie, quoi, je trouve.
Maxime Livio, je vous remercie.
Ben, c'est moi, avec plaisir, vraiment.
Pour cette minute managériale, je partirai des 5 valeurs portées par Maxime Livio, facilement transposables dans d'autres contextes professionnels. La rigueur, la performance, le respect, le bien-être et la convivialité. Première valeur, la rigueur, qui peut être scindée en deux. La rigueur organisationnelle, tout d'abord, à ne pas confondre avec de la rigidité, c'est expliquer le projet, lui donner du sens, bien organiser en expliquant les contraintes, cette rigueur permettant à chacun de connaître les objectifs et sa zone de responsabilité. La rigueur comportementale ensuite, car après avoir clarifié les règles, il faut les appliquer avec exemplarité et les faire respecter. Développer la capacité d'objectiver les choses pour réduire le champ des jugements et des interprétations. Deuxième valeur, le respect. Il passe par l'intérêt porté aux autres, connaître et accepter les priorités de vie de nos collaborateurs. Cela ne veut pas dire de s'impliquer dans leur vie personnelle, mais plutôt de les aider à trouver un équilibre dans leurs priorités. Cela s'apparente également à de la considération. Troisième et quatrième valeur, le bien-être et la convivialité, les chevilles ouvrières de la performance. L'humain est sensible au confort. Plus on lui en donne, plus il peut aller dans une zone d'effort. Conditions de travail, ambiance, un manager doit avoir le souci de mettre à disposition toutes les conditions pour réussir, en s'assurant bien entendu d'une contrepartie du collaborateur, son engagement. L'idée étant d'adapter un système, et l'exemple de Maxime Livio sur les espaces de vie des chevaux est génial. Pour certains, un box, un petit espace, pour d'autres, un grand pré. Seul, en groupe, chaque espace correspondant à la personnalité et au caractère d'un cheval. Si je trouve l'adéquation, juste, je permets au cheval d'être bien. Si je transpose au cadre professionnel, télétravail, présentiel, bureau individuel, en binôme, cloisonné, open space, espace de convivialité, bref, il n'y a donc pas qu'une manière de s'organiser, mais plusieurs. Et si celles-ci sont pensées au regard des personnalités individuelles, de la connaissance des gens avec qui on travaille, alors notre organisation aura montré très concrètement sa capacité à être agile. Si les gens sont bien, heureux, il y a des chances en plus qu'ils aient envie de se retrouver pour partager un moment ensemble, qui devrait être convivial. Ce faisant, cela crée et développe un sentiment d'appartenance. Et enfin, cinquième valeur, la performance, qui pourrait se résumer comme une conséquence des quatre premières. Créer, développer des liens pour mettre en convergence des acteurs, issus parfois de différents métiers, autour de stratégies, de processus ou de projets, pour produire des résultats ensemble. C'est donc ce que l'on va créer et obtenir avec l'équipe qui va devenir une performance durable et soutenable. Le cheval devrait être l'une des bases du management.